Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et nous sommes ravis d'accueillir nos deux invités ce matin. Commençons par la première d'entre eux. Bonjour Alexandra Lamy.
Bonjour.
Bonjour Franck Dubosc.
Bonjour.
Vous êtes réunis tous les deux dans votre film Franck Dubosc, Tout le monde debout. Il sort mercredi prochain le 14 mars au cinéma avec RTL. Une comédie réussie, drôle, tendre sur le thème du mensonge et du handicap. Nous allons en parler d'ici 9h30 avec Stéphane Boutsock et nous offrirons des places à nos auditeurs pour qu'ils aillent eux aussi découvrir cette histoire en salle. Nous jetterons également un œil sur nos programmes télévisés du jour avec Isabelle Morini. Bosc, ce qui ne manquera pas, j'en suis sûr, de vous faire réagir puisque vous avez pratiqué tous les deux le petit écran. Alors, avant de parler de l'histoire du film Tout le monde debout, d'abord un constat qui vous concerne tous les deux. Je vous observais là en rentrant dans ce studio. Vous formez à l'image un couple magnifique de cinéma. Il se passe clairement quelque chose. On croit même à votre romance qui initialement paraît impossible. Est-ce que c'est juste du boulot de comédien ou est-ce que ça repose sur une amitié et j'ai envie de dire une complicité de longue date, voilà, entre les deux.
Parce que quand c'est vous nous avez vu là au naturel, vous ne trouviez pas du tout qu'on allait ensemble.
Si, justement. En vous arrivant, je me disais, ces deux-là s'entendent bien, ouais. Et c'est ce qui fait une partie du charme de votre film, au-delà du scénario. Ouais.
Non, c'est vrai. Enfin, oui, moi j'ai fait un gros boulot, un gros stage pour pouvoir quand même que ça marche avec Franck. Non, mais c'est surtout parce que je pense qu'avec Franck aussi, on marche un peu de la. Enfin, on travaille un peu de la même manière aussi. On a un peu le même rythme. J'allais dire, ouais. On vient de la même école. Je sais pas si on peut dire ça, mais.
Et du parce coup, ça marche. Parce qu'on vient pas d'école du tout, donc c'est pour ça. Non, oui, on s'entend très. Ah, c'est pas de longue date, parce qu'on se connaît pas voilà. De longue non. Date, en fait. On s'est rencontrés sur le film de Dominique Farrugia, Abyss. Mmh. On a vécu une seule scène. En plus, moi, j'étais nu face à elle, uniquement vêtu d'un Paris Match.
C'était déplié, pas facile, vous savez.
Je précise, déplié.
Oui, oui. Et on voit d'un pareil haut.
Voilà. Et on s'est croisés comme ça plusieurs fois. Mais je crois qu'on... on fait partie de la même famille. Dans le, on a un metteur en scène commun qui s'appelle Eric Lavenne, qui nous a toujours dit, et à l'un et à l'autre... moi, il me disait, Alexandra, c'est toi en fille.
Ah,
et,
c'est drôle.
Il y a quelque chose de voilà, dans, sûrement... Quand je vois ça et quand je vois comment Alexandra, c'est un sacré compliment qu'il me faisait. Mais je crois que je suis un peu plus chiant quand même qu'elle. Mais c'est vraiment, ouais, il y a quelque chose. C'est très facile de travailler avec Alexandra. C'est, ou de vivre, mon Dieu. Je ne sais pas.
Non, écoute, mais ne dévoilons pas tout.
Oui, elle est facile à vivre quand même.
Stéphane, à vous maintenant de nous dire ce que raconte le film de Franck Dubosc. On va mieux comprendre cette complicité.
Tout le monde debout part comme un vaudeville. Mmh. Jocelyn est un homme d'affaires qui a réussi. Il est dragueur et surtout obsédé par le mensonge. Chaque occasion est bonne pour inventer un nouveau bobard.
Ça n'arrête pas.
Sauf que le dernier en date est un petit peu plus costaud et lourd de conséquences. Pour séduire une jeune femme, il s'invente un handicap, ignorant que Florence, la sœur de sa proie, est vraiment handicapée en fauteuil. Jocelyn tombe sous le charme, mais il est allé trop loin. Il va devoir assurer son mensonge en entraîne d'autres. Exemple extrait, on est dans son bureau. Il reçoit la visite de Florence, qui joue son personnage. Il joue son personnage de handicapé, mais Marie, sa fidèle secrétaire, elle, elle n'est pas au courant.
Non, je voulais juste m'excuser. Je profite en fait d'une compétition de tennis pas très loin et je me suis dit, bah tiens, c'est juste à côté, c'est trop bête, autant en profiter. On vous a posé sur le bureau ?
Oui ?
Je peux vous parler ?
Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Venez.
Non, vous venez.
Non, vous.
Non, vous venez, je peux pas bouger.
Très bien. Enfin voilà, en tout cas, je joue un match au Stade Peretti à 19h.
Jocelyn ?
Oui ?
Écoutez, ça peut plus attendre, maintenant il me faut une réponse urgente.
Avec quoi ?
C'est pour votre coloscopie. En fait, elle est déplacée. Enfin, c'est toujours dans l'anus, hein, mais c'est jeudi.
C'est bon, Marie.
Ah, et puis le docteur a dit qu'il fallait bien penser au petit régime de préparation pour que les intestins soient clairs. Ça facilite le passage de la petite caméra. Enfin, c'est ce qu'il a dit.
C'est bon, Marie. Alors,
Marie, je voudrais qu'on la salue parce que c'est Elsa Bilberstein qui fait des trucs dingues dans le film, à la fois burlesque et totalement émouvante.
Hein, tellement drôle.
Oui, vraiment. Ouais. Ce film, c'est votre premier, Franck, en tant que réalisateur. Alors, je vais vous faire un compliment. Ça n'en a pas l'air au début, mais c'est un vrai compliment. Vous nous embarquez là où on ne s'attendait pas forcément à aller avec vous. C'est-à-dire que si on retrouve au début les codes de certains de vos personnages, le couillon mégalo-dragueur, vous bifurquez très vite vers une histoire qui est beaucoup plus profonde sur l'identité, sur le mensonge, les apparences, l'amour. Alors, évidemment, on se marre tout au long de Tout le monde debout, mais le film est bien plus qu'une comédie romantique. C'est remarquablement écrit, formidablement mis en scène. Votre direction d'acteur est impeccable. Mention spéciale aussi, on va les citer, à Gérard Darmon et un comédien dont on connaît la tête, mais pas forcément le nom, qui s'appelle Laurent Bateau, qui est excellentissime. Oui. Vous avez attendu 54 ans, je peux le dire, 54 ans pour
passer... Maintenant que c'est fait,
c'est trop tard.
Derrière la caméra.
44.
Est-ce qu'il fallait que tout ça mûrisse en vous?
Oh, oui, je pense, oui. Que mûrisse, j'en sais rien, que je puisse assumer le fait d'écrire un film sans me soucier de être drôle à tout prix, être tendre à tout prix, être faire attention à ci, faire attention à ça, d'écrire tout simplement, tranquillement. Mais je crois qu'il y a une chose aussi qui m'a aidé beaucoup, c'est qu'en même temps, j'étais en train de préparer mon prochain spectacle, ce qui fait que je me dis, bah allez, laisse-toi aller à la Gaudriole sur scène, y aller franchement, et puis prends ton petit canevas, ton petit machin d'à côté, c'est comme si on balançait de la peinture à fond des grosses couleurs d'un côté, puis de l'autre côté, on affine les choses. Alors, j'aime les deux, mais ça me permettait, voilà, ça me permettait de je crois que c'est pas tant la maturité, c'est le fait d'oser de s'assumer, de me dire, ah puis merde, allez, j'écris qui je suis vraiment.
Donc, vous avez trouvé un équilibre au même moment entre votre activité d'auteur et d'acteur, on va dire pour le théâtre et pour les spectacles, ouais. et de metteur en scène qui avait ouais. envie de raconter une histoire où en fait il y avait des choses sensibles que vous n'aviez pas exprimées jusqu'ici ou peu.
Oui, mais c'est pas tout à coup, c'est pas ça y est, je me lâche, hein, du tout. Non, c'est comme j'avais jamais écrit un film tout seul, j'avais personne pour me dire oh, ça fait attention, c'est pas assez drôle, c'est trop triste, c'est trop. Finalement, alors je dis pas que c'est une recette parce que je sais pas comment ça. Le prochain que j'écrirai, si j'écrirai tout seul ou quoi. Mais bon, voilà, j'étais tout seul dans mon petit bureau et ça marchait bien. Au début, je me suis dit, je vais prendre quelqu'un pour terminer. Donc, ça, c'est comme quand j'ai arrêté de fumer. Je me suis dit, j'arrête pas, je reprendrai un jour. Mais j'ai toujours pas repris. Mais quand j'ai écrit, c'était pareil. J'ai dit, j'écris, mais je vais prendre quelqu'un pour écrire avec moi plus tard. Et je l'ai pas fait.
Bon, donc en fait, vous pratiquez un peu la magie, je vois.
Alors, c'est ce que certains appellent le génie.
tout simplement.
Alors, la magie, c'est aussi la façon dont vous avez filmé votre partenaire.
Ah oui.
Et il y a une aura autour. Alors, c'est la sienne.
C'est celle qui tient la baguette.
Non, mais il y a une aura autour d'Alexandra Lamy et de la façon dont vous la filmez dans ce film. Il y a une tendresse, une mise en valeur aussi de sa sensibilité. Écoutez, ces scènes notamment qui sont tournées dans ce restaurant.
À Prague.
Voilà, à Prague, il y a une espèce de charme qui rappelle les comédies musicales, enfin, des univers très inattendus. Donc, vous avez pris plaisir à lui tourner autour, c'est ça?
Oui. Elle a amené quelque chose au personnage de plus que j'attendais pas en fait. Et c'est vrai que tout le monde dit elle est rayonnante, elle est belle dans le film, elle est belle dans la vie aussi. C'est-à-dire que je crois surtout qu'elle a pris le rôle et que le rôle lui a donné une tendresse en plus.
Alexandra Lamy, est-ce que vous sentiez ce qui était en train de se passer en fait, finalement, qu'il y avait une jolie magie de cinéma qui se mettait en route?
Non, parce que quand on est à l'intérieur, j'allais dire, nous on se rend pas compte finalement de la réalisation. Justement, quand Franck m'a proposé le film, il m'a pas du tout parlé du sujet, ce qui fait que j'ai lu le scénario comme ça et c'était pas mal parce que déjà dans le scénario il y avait effectivement cet humour, c'était extrêmement drôle déjà, touchant, ça raconte, il y a un vrai fond. Et puis après quand j'ai vu le film, surtout j'ai vu un réalisateur parce que moi ça je le voyais pas sur le plateau. Mais je veux dire les images sont magnifiques que vous parliez. Que je suis très très belle, merci, c'est très gentil. Mais c'est vrai qu'il a, je trouve qu'il a, au niveau de l'image, il a fait un travail vraiment de réalisateur que j'ai découvert en voyant le film. Et puis on a un super chef-op aussi. Puis j'ai des maquilleuses, coiffeuses, chirurgiens esthétiques aussi. On
avait
un peu
de
oui, non, quand même, attendez.
Et Stéphane,
oui, bien sûr, évidemment, j'ai été énormément aidée quand même.
Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais le thème du handicap, évidemment, est très présent dans le film. Il y a une idée, je trouve, extrêmement maligne. C'est-à-dire que Florence, votre personnage, Alexandra, est en fauteuil. Jocelyn, votre personnage, Franck, lui, est. Un valide, comme on dit, mais c'est le plus handicapé des deux, finalement.
Ah ouais, exactement.
Quand j'ai commencé à écrire, c'est comme ça que je suis parti de lui. Je suis parti de lui, c'est un handicapé de l'amour. Et la sœur de Florence dans le film, Caroline Anglade, elle le dit, c'est toi le plus handicapé des deux. Mm. Le mot handicap, il est toujours très fort comme ça, mais il faut qu'on se regarde un petit peu de temps en temps, parce que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le handicap réellement? Le mot, d'ailleurs, le mot, c'est handicapant, machin, allège la chose, mais on est tous, quelque part, à un moment donné, handicapés de quelque chose. La différence avec la personne dans le fauteuil, c'est le fauteuil. C'est uniquement un objet. Après, il y a la souffrance qui peut... Bon, mais ça, j'en parle pas dans le film, bien évidemment. Je parle de l'être humain, d'abord. Mais ouais, mon personnage, c'est... Et d'ailleurs, quand j'ai écrit, la difficulté n'était pas de me dire comment lui va tomber amoureux d'elle. C'était de me dire comment elle peut tomber amoureuse de ce mec. À aucun moment, je me suis dit, ah, c'est difficile, alors attends, aller dans un fauteuil, qu'est-ce que je vais mettre? Pas du tout, pour moi, c'était évident. C'était la femme qui voyait, musicienne, sportive, encore, debout dans sa tête, parce que tout le monde debout, c'est à lui de se lever, plutôt. Ouais. Et je me suis dit, mais elle, qu'est-ce qu'il a, lui, d'attirant? Alors qu'il fait du sport, il a des beaux costumes, il a une belle voiture, c'est moi qui le joue.
Il est très très beau.
Non, mais vous voyez, c'est un vieux beau de 50 ans. Oui. Et il a a priori tout ce que lui pourrait penser de bien pour une femme, puisqu'il est là à draguer les petites jeunettes et tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je lui mets comme positif à celui-là? Et il a fallu, et il y a cette scène de Prague, où tout à coup, là, je me suis dit, celle-là, il faut qu'il la fasse rire, il faut qu'il l'émeuve, et il faut qu'il tombe le masque. À un moment, et c'est pour ça qu'il chante. Mais c'était dur. Hein. Enfin, je me suis dit, mais comment, faut vraiment. C'est lui le plus difficile à aimer.
Alors, il y a une scène extraordinaire où on voit jouer au tennis dans un fauteuil. Je peux vous dire que j'ai été très impressionné, très sincèrement. Mais est-ce que le fait de jouer une handicapée implique quelque chose de particulier pour la comédienne, voire aussi une forme de responsabilité, enfin sociale, ou est-ce que vous vous êtes embarqué là-dedans de façon un peu plus légère?
Non, honnêtement, ça, on a, avec ce genre de rôle, on a toujours comme une petite responsabilité un peu sur les épaules, parce qu'on se dit, mon Dieu, pourvu que je sois crédible.
Je les représente.
Mais c'est ça, donc on se dit, pourvu que je sois crédible. Donc c'est vrai que c'est un petit peu stressant. Donc tout de suite, évidemment, j'ai demandé à la production d'avoir très vite un fauteuil. Et c'est vrai que le handisport
tennis... Exigeante.
Elle travaille, horrible. Et l'handisport tennis, effectivement, m'a vraiment aidée. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu stressée, ce genre de rôle au début. Après, je me suis dit, il ne faut pas trop... que tu y penses, voilà. Et puis, là, jusqu'à présent, on fait une tournée province, donc j'ai personne qui m'a craché dessus en me disant ça marche pas, mais c'est vrai que ça m'a mis une petite pression. Mais en même temps, il y avait ce que disait Franck tout à l'heure, il y avait un truc aussi, le fait que je sois effectivement sur ce fauteuil, je trouvais aussi, par rapport à mon personnage, moi qui parle d'ailleurs très très vite dans la vie, qui arrête pas de bouger,
une pondération.
Ouais, exactement. Et plus d'observer, de regarder. C'est pour ça que, alors, je peux pas spoiler, mais voilà, je trouvais que cette femme-là aussi, elle tombe amoureuse parce qu'elle a le temps de le regarder, elle. Elle voit qui est derrière. Elle est plus posée. C'est tout ça, je trouvais que c'était intéressant aussi pour ce personnage.
Ouais, moi, je lui avais dit au début, je lui ai dit, je veux pas le cow-boy, je veux la femme. Oui. Parce qu'elle a les deux parties, oui, Alexandra. Oui. Elle est capable de faire. Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'ai dit, non, c'est un cow-boy qui parle. La femme, elle était belle en femme. Hein.
Alors, pour voir et le cow-boy et la femme, vous qui nous écoutez, vous ferez aussi votre idée dès mercredi prochain en allant voir Tout le monde debout, le film RTL 2 et avec Franck Dubosc, mais aussi Alexandra Lamy. Nous vous offrons des places ce matin pour gagner. Il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
Comment s'appellent les personnages d'Alexandra et Franck dans le film? Est-ce Isabelle et Valentin ou est-ce Florence et Jocelyn?
Réponse au 32-10. On marque une petite pause. Dans un instant, on poursuit ce Laissez-vous tenter consacré au film Tout le monde debout. A tout de suite. Merci d'écouter la première radio de France.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
Alexandra Lamy et Franck Dubosc sont avec nous jusqu'à 9h30. Ils sont à l'affiche du film RTL Tout le monde debout, réalisé par Franck Dubosc. C'est son premier film de réalisateur, à découvrir au cinéma mercredi prochain, le 14 mars. Je vous le rappelle. Alors, je reviens sur cette thématique du handicap qui est le point de départ de votre histoire. Quelle a été la réaction des handicapés eux-mêmes à qui vous avez montré le film? J'imagine que leur regard était important, voire essentiel pour vous.
Ah, bah oui, c'était essentiel, oui. C'était la première fois qu'on a présenté le film, la première fois que j'ai vu une personne handicapée dans la salle. Quand je suis rentré avant le film, j'ai dit, oh là 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 là, mon Dieu, j'ai hâte de savoir ce qu'elle... Parce que je voulais pas organiser une projection exprès, ça aurait été ridicule. Et j'ai croisé la jeune fille après, et je lui ai dit, alors? Et elle me dit, oh merci, vous avez montré ce qui est bon. Donc elle a vu une histoire drôle et d'amour, sans que je dise, t'as vu, voilà. Et elle avait, non, et puis après on en a vu plein d'autres.
Ouais,
et non, ça se passe très très bien. Il y a parfois une petite question, dire pourquoi pas une personne handicapée dans le fauteuil, mais quand ils voient le film, après elle la pose pas la question, parce qu'ils voient Alexandra et tout ça, puis bon. Il n'y a pas beaucoup d'Alexandra Lamy en fauteuil.
Non. Et vous vous êtes préparé, vous, physiquement, spécifiquement? J'évoquais tout à l'heure votre partie de tennis qui est absolument incroyable. Et puis, vous n'êtes pas accoutumé à ça. Et
non,
vous avez
tout.
Une aisance incroyable. Et c'est d'autant plus important dans le ressort dramatique du film que celui-là qui se fait passer pour un handicapé, il est beaucoup moins à l'aise que vous dans son fauteuil.
Donc, oui, bien sûr.
Une partie des tensions et de la drôlerie viennent de ça.
Non, c'était un vrai travail. C'est vraiment ce que j'ai fait pendant 2-3 mois, d'avoir un fauteuil chez moi, de me mettre vraiment dans les conditions. En plus, comme c'est pas fait du tout pour ça, je me mettais vraiment dans une vraie difficulté. Et en fait, ce qui est terrible, c'est. Le plus dur, c'est d'oublier ses jambes, parce qu'on a des réflexes, on a des choses comme
seul.
Ça. Donc donc on s'attache les jambes, on essaye de... Mais je me suis dit, il faut que je me mette complètement pendant 3 mois là-dedans.
Alors, votre personnage, elle est très sportive, on l'a dit, elle joue au tennis. Et, pour vous préparer, vous vous êtes entraînée avec une jeune femme qui s'appelle Emmanuelle Merck. Elle est membre de l'équipe de France de tennis paralympique. Elle est 25e joueuse mondiale, numéro 2 française. Oui. Elle est en tournoi, là, aujourd'hui, en Suisse. Je l'ai appelée hier soir, parce qu'elle tenait absolument à nous parler de son travail sur le film et de votre performance.
J'ai reçu un jour un appel du producteur qui m'a proposé de faire la doublure d'Alexandra dans un premier temps. finalement, il s'avérait que nos corps ne matchaient pas, mais j'ai fini par jouer l'adversaire et la coacher. Et c'est vrai que c'était une expérience vraiment incroyable. Et j'ai rencontré une femme que j'apprécie beaucoup et qui m'impressionne encore plus qu'avant. Le plus difficile, c'était vraiment le déplacement du fauteuil roulant. Elle avait les gestes du tennis, elle avait joué il y a quelques années, donc ça est revenu rapidement. Mais effectivement, le déplacement avec la raquette dans la main, c'est quelque chose qui est très difficile au départ, qui n'est pas inné. Donc, il faut vraiment du temps pour s'habituer et pour que ça reste naturel, quoi.
Alors, Emmanuelle Merck est handicapée. Je lui ai demandé quel regard elle portait, on en parlait, Franck, sur cette comédie qui parle justement du handicap.
On ne sait jamais comment ça va être interprété, comment les personnes en situation de handicap vont le percevoir. Mais finalement, je trouve que ça a été très bien fait parce que beaucoup de légèreté, beaucoup d'émotions, du rire. Une histoire d'amour. Voilà, je représente pas toute la population des personnes handicapées, donc chacun a sa vision du monde qui peut être différente. Mais je pense qu'on peut se reconnaître à travers le personnage d'Alexandra ou peut-être d'autres personnages dans le film qui ont des visions du handicap très différentes. Et c'est vrai que je pense que chacun peut trouver un peu sa place dans le film et s'identifier et tout se laisser porter par les émotions.
Et puis vous vous doutez bien, Emmanuel voulait vous saluer à sa manière.
Je voudrais leur dire bravo à tous les deux, que ce soit Franck qui a fait un travail remarquable de réalisateur et d'acteur. Déjà, de réussir à faire les deux en parallèle, c'est énorme et vraiment félicitations. Alexandra aussi, parce que je sais que ça a été un long travail pour elle, que ce soit au niveau du fauteuil, au niveau du tennis, au niveau du violon. Elle a beaucoup appris dans ce film et je trouve que le rendu est très beau. Et elle reste une actrice extraordinaire. Elle a réussi à transmettre beaucoup d'émotions dans ce film. Et vraiment, ouais, juste un mot, c'est bravo parce que le rendu est très beau.
Oh, Emmanuel, merci.
Elle est l'exemple type, Emmanuel. C'est une très très jolie fille. Je sais pas à quel âge, 27 ans, 26. C'est une jeune femme très très jolie qui a eu un accident et qui est devenue paraplégique. Et je me souviens de tous les mecs. Il y a tous les mecs. Waouh, elle a regardé et Elle est belle, elle est sportive, et son fauteuil fait partie de sa séduction, parce qu'elle est tellement, elle est forte quand on la regarde. C'est même pas
qu'on
la dit, c'est qu'on, ça fait partie du truc. Et c'est une jolie fille.
Très très belle. L'équipe technique, tout le monde était.
Elle est l'exemple type. Et quand je l'ai vue arriver, j'ai dit waouh, c'est ça, c'est cette séduction qu'elle a, mais tout. Tout va avec, c'est pas, elle est belle, mais dans un fauteuil. Non, elle est belle et dans un fauteuil. Il y a quelque chose de, et ça m'a conforté quand on répétait, quand on travaillait, parce que je me dis, voilà, c'est cette fille-là dont je parle, voilà.
Alors, votre dernière réaction à tous les deux et la façon dont vous parlez d'Emmanuel à l'instant amène une autre question, c'est est-ce que vous pensez, Alexandra, Franck, que ce film peut aussi faire changer, les mentalités à propos de la place des handicapés dans notre société, leur accès toujours compliqué, on le sait, à l'espace public, je ne sais pas si c'est le propos du film initialement, mais du coup, quand on passe une heure et demie à suivre une histoire comme ça, qu'on rit, qu'on est ému et qu'on passe finalement par toutes les gammes de sentiments de l'activité humaine, on se dit ça peut faire bouger les choses. Est-ce que vous aviez envie que ce soit le cas, très simplement, sans vous lancer dans une lutte politique, vous avez compris.
Non, c'est pas une mission. Puis une heure quarante de film peut pas faire ça. Mm-hmm. En revanche, je vois les gens, je comprends, il y a une légèreté à la fin où tout à coup on se dit, alors peut-être qu'elle disparaît une demi-heure ou une heure après ou deux jours, mais où on se dit moi aussi je suis tombé amoureux d'elle, moi aussi j'ai. Où on se met à ça déculpabilise aussi quelque part, j'en parle dans le film, c'est-à-dire que tout à coup on se sent. Moi j'ai vu des gens, ils nous parlaient après. Il faut comme ça, quoi. On est plus léger parce que tout à coup, ils se sont mis à la place des personnages et puis ils se sont dit, peut-être que je pensais pas comme ça. Je ne vais pas changer ma façon de penser parce que c'est dur de changer sa façon de penser. Même moi, c'est pas parce que j'ai fait ça qu'on reste quand même toujours un peu les mêmes, mais ils se sentent plus légers.
On va marquer une nouvelle pause dans cette émission. Dans un instant, toujours en compagnie d'Alexandra Lamy et de Franck Dubosc, on parle des programmes télé de ce jeudi soir avec Isabelle Morini-Bosc. À tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Nous sommes toujours en compagnie d'Alexandra Lamy et de Franck Dubosc. On va parler télévision maintenant. Alors, on commence d'abord par nos audiences de la veille avec Médiamétrie, Isabelle Morin-Dubosc.
Eh bien, puisque l'accord entre le groupe Canal+ et le groupe TF1 a été trouvé simplement hier aux alentours de 23h, eh bien, on sent encore l'incidence sur les audiences hier, puisque le journal de France 2 est à 5 800 000 téléspectateurs contre un peu moins de 5 millions pour le journal de TF1. Et Demain nous appartient, même s'il remonte un tout petit peu, est encore nettement derrière ses audiences d'avant la crise. Alors, ça se sent aussi sur Esprit Criminel sur TF1, moins de 4 millions de téléspectateurs et 16% du public. Les Bovitz contre les Bovitz que j'adore sur la 2, 3 300 000 et 14% dans sa moyenne. Et alors Top Chef remonte vraiment, ils sont quasiment à 3 millions de téléspectateurs et un très grand nombre de ménagères.
Bon, on regarde quoi ce soir?
Alors, côté programme, je voudrais attirer votre attention sur le feuilleton de TF1, section de recherche. Vous regardez pas, vous avez tort. Parce que vous avez le sens du grand public. Eh bien, sachez-le, c'est un feuilleton que la critique ignore, que le public adore. Comme dit l'autre, personne n'aime sauf le public. Pourquoi regarder cette fiction racontant depuis 12 saisons les enquêtes criminelles d'une unité de gendarmerie? Parce que, primo, elle bénéficie d'ateliers d'écriture à l'américaine, rarissime en France. Deuxio, chaque épisode d'à peu près 1 million d'euros passe entre plusieurs mains avant d'être validé, garant de qualité. Tertio, Arlan Coben, avec qui vous avez tourné, aime. Et il le dit. Et quarto, les Français aussi. C'est un succès d'audience à l'international depuis sa création en 2006. Près de 7 millions de téléspectateurs à la louche, 8 quasiment avec le replay. Et c'est une série que j'appelle, moi, MacGyver. C'est-à-dire qu'elle a survécu à tout. Le départ de nombreux comédiens dits emblématiques, le changement de lieu de Bordeaux à Nice, et ça tient toujours. Mention spéciale à Xavier Deluc, présent depuis le début. On en reparlera, parce que pour l'instant, j'ai une petite pépite. La diffusion d'un envoyé spécial sur France 2, du portrait d'un DRH, mais absolument hallucinant. Il a une bonne bouille, hein, mais il a que ça. Il se vante d'avoir viré près de 1000 personnes en 22 ans au service de multinationales.
C'est bon.
Il est aujourd'hui passé de l'autre côté de la force, mais il reste un peu obscur. On l'écoute, petit exclu.
J'avais un objectif, que la personne soit physiquement hors de l'entreprise. Le reste, aucune importance. C'était excellent. Ça ne faisait pas de bruit, pas d'esclandre. Circuler, il n'y a rien à voir. Vous faites ce qu'on attend de vous, quelque chose qui ne laissera pas de traces, qui ne touchera pas l'entreprise, qui fera disparaître le salarié le plus vite possible. Moi, je ne suis pas violent, mais la manière dont je fais les choses est violente. Appeler quelqu'un au téléphone, lui dire « Tiens, tu peux passer dans mon bureau ?» Puis quand la personne arrive, se doutant de rien, lui dire « Bonjour, assieds-toi, tu vas quitter l'entreprise tout de suite. » Je ne frappe pas, je n'insulte pas. Mais l'acte en lui-même et d'une violence inouïe. Licencier quelqu'un qui ne mérite pas d'être licencié, au cas où on pourrait mériter d'être licencié, c'est immoral, bien entendu.
Est-ce que vous regrettez parfois d'avoir gagné de l'argent sur le dos de licenciements souvent sans cause?
Non.
Vous n'avez pas honte?
Ah non. Je pense que j'aurais pu en gagner beaucoup plus, et je pourrais en gagner beaucoup plus en étant encore plus crapuleux et plus sanguinaire.
Ça nous fait un bon sujet de film, hein, moi, je vous le dis.
Hein. Mais c'est joli.
Non, mais c'est vulgaire.
Il s'appelle Didier Bill, il touche sa bille dans son secteur, mais même maintenant, on n'a pas nécessairement envie de le connaître. Et puis maintenant.
Mais c'est un beau personnage de série ou de film.
Mais même physiquement. Même physiquement. Il a la tête des petits personnages, des émoticônes, là, les machins. Et en fait,
Vous voulez dire qu'il a une bonne bouille.
Voilà, il a une bonne bouille, une bonne bille.
Il est jaune.
Ouais.
On termine avec
quoi? Donc ça, c'est ceux qui sont en face. Pour finir, j'ai une question télé pour chacun de vous. Franck, vous jouiez en 2015 dans une fiction que j'adore, mais qui n'a pas complètement marché sur M6. Ça s'appelait Peplum, série créée par Thierry Ardisson. Ça se passait au temps de l'Empire romain. C'est avec Isabelle Nanty, Pascal Demolon, Cadmérade, Manu Payet, Tarek Boudali, Jean-Luc Bidault, excusez du peu. Vous étiez Zéphiros. Alors, on parle d'un éventuel retour de Peplum sous une autre forme, c'est-à-dire plus 90 minutes. Si ça se concrétise, et si vous êtes disponible, est-ce que vous êtes partant?
Ah oui, c'était génial, réalisé par Philippe Lefebvre.
Oui.
Mon copain Philippe Lefebvre. Ah oui, c'était génial, avec Jonathan Lambert, tout ça. C'était très très drôle. Je pense que l'erreur, c'est la diffusion,
En 90
Mais je vais vous dire, j'ai subi la même erreur et par les mêmes. Quand j'avais fait...
Les Beaux Malaises.
Parce que la télévision doit diffuser beaucoup, beaucoup, c'est du 90 minutes, alors que ce sont des projets qui tiennent sur, là pour le coup, je ne sais pas combien, mais en minutes, qui tiennent en minutes et pas en heures. Une fiction,
quand la télé rallonge, elle a fadi.
Mais oui, quand on écrit, on le sait très bien, on n'écrit pas la même chose pour 24 minutes, pour 5 minutes ou pour 1h30. Et le spectateur n'est pas auteur, mais les spectateurs, il le sent, il le sait. Mais les chaînes, ils s'en fichent. Ils disent non. Moi, je me souviens, c'est la même chose pour Peplum. Ah, mais la case n'existe pas. Mais inventez-la. inventé là, la case de où il y a moins de temps, où il y a... Et voilà, et ils ont subi, ce peplum a subi ça, mais c'est un excellent programme.
Ah, oui. On passera l'info de la case aux principaux concernés.
Je vais dire que vous réclamez le retour de peplum.
Voilà, et Alexandra Lamy.
Alexandra Lamy.
Et des beaux malaises.
Et des beaux malaises, absolument. Chacun son tour. Alexandra Lamy, en 2015, vous étiez dans Une chance de trop, d'après Arlène Coben. En 2016, dans Après moi le bonheur, en unitaire, vous prépariez votre après-mort par rapport à vos enfants. En 2017, dans un spécial, Scène de ménage avec votre sœur. Et alors en 2018, rien côté télé.
Si, c'est en train de se... Voilà, il y a une écriture, là. Bah, et je ne peux rien dire pour l'instant, parce que je n'ai pas vraiment lu. Donc voilà, on est en train d'écrire à nouveau, avec Arlène Coben aussi. Je sais qu'il écrit de son côté aussi.
J'attends. Qu'est-ce que je fais là-dedans?
Ah ben toi, tu... Non, rien.
Non.
On ne peut pas.
N'oubliez pas qu'on a appris à vous aimer à la télévision.
Oui, comment?
On a appris à vous aimer à la télévision. C'est une relation très particulière, parce que c'est un choc de très, très grand public d'emblée.
Record d'audience.
Énorme.
Bon, allez, on marque une dernière pause dans cette émission. Et dans quelques instants, on se dit au revoir, à bientôt. Et surtout, rendez-vous le 14 mars pour la sortie de Tout le monde debout, le film de Franck Dubosc, avec Alexandra Lamy. A tout de suite, restez avec nous, on va vous distribuer des places.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Comme on est généreux, on vous offre des places pour aller découvrir Alexandra Lamy et Franck Dubosc.
Pas trop, hein.
Vous savez, je vous rappelle qu'on les paye, les places. Hein. Donc,
ah, bah ça va.
Ça, c'est très bien. Très bien.
Vous changez de ton, monsieur Dubosc. La question était, mais comment s'appellent les personnages d'Alexandra et Franck dans le film? Isabelle et Valentin ou Florence et Jocelyn? Donnez la réponse, c'est votre film, mon vieux.
Moi, je m'appelle Jocelyn.
Florence.
Et ben voilà. Vous avez gagné en nous appelant au 3210. Merci beaucoup d'être venu passer avec nous cette matinée.
Merci
à vous.
De vous accueillir le 14 mars dans les salle de cinéma, la sortie de Tout le monde debout. Merci à Isabelle Morini-Bosque, à Stéphane Boutsock qui nous a fait découvrir le film, et bienvenue à notre camarade Julien Courbet.
Et un énorme MERDE aux deux comédiens qui sont à côté de vous. Et voilà, bonne chance pour le film, mon Franck.
Merci Julien.
On prend, merci.